Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours chamboulant d'écouter les histoires de chacun, des uns et des autres. C'est la différence entre vivre une religion et vivre avec Dieu. Et quand on vit avec Dieu, ben, il se passe plein de choses dans notre vie. Il nous fait rire, parfois il nous fait pleurer. Mais ça fait partie de la vie et dans tous les cas, dans tout ce qu'on traverse, il est là. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce matin, on va aborder un texte qui est aussi ancré dans la vie de quelqu'un, qui a été un moment particulier, un moment d'épreuve. Et puis on va voir tout ce qu'on peut en retirer. On peut commencer par lire ce texte. Alors vous savez que quand moi je partage, je ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus. J'aime Jésus et c'est de lui dont j'aime parler. Donc on va parler beaucoup de Jésus ce matin, encore. On va prendre un texte qui se trouve dans la Genèse, qui est très connu, et on va essayer d'en retirer plein de choses pour nous. Dans Genèse 22, ceux qui veulent suivre sur leur Bible, ou alors c'est écrit ici. C'est l'histoire d'Abraham et de Isaac, son fils. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Essayez de retenir ce que j'ai souligné en rouge. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, Mon père. Et il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà une des histoires les plus connues, je pense, de la Bible. Et je crois qu'elle ne laisse pas indifférent, cette histoire. Même si on l'a déjà entendue maintes et maintes fois, elle nous touche dans nos émotions. L'histoire de ce père qui est prêt à offrir en sacrifice son enfant, touche en profondeur l'âme humaine. Et je voudrais ce matin qu'on aborde ce texte en parlant surtout du Fils, bien qu'on va commencer par parler du Père aussi. Parce que j'aime bien le dire et le redire, la première personne que l'on doit chercher quand on étudie, quand on lit la Bible, c'est Jésus-Christ. Je vous le répète, pour que ce soit un réflexe. Quand on aborde un texte, même quand on aborde les généalogies, même quand on aborde le Lévitique, C'est le texte, c'est la partie de la Bible où il n'y a que des lois. Même là-dedans, la première chose que je dois y chercher, c'est Jésus-Christ. Parce que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Certes, ce texte présente l'obéissance et la foi d'Abraham, mais le cœur de cet événement, le message central, c'est l'annonce du sacrifice de Jésus-Christ. Alors on peut se poser la question, pourquoi, je nous la pose, pourquoi Abraham est-il aussi important dans la Bible ? Dieu l'appelle, Dieu s'appelle lui-même le Dieu d'Abraham. C'est quand même... Est-ce qu'il s'appelle le Dieu d'Irina ? Non. Le Dieu de Pierre ? Même pas. Mais le Dieu d'Abraham. Deutéronome 9, 27, il nous est dit « Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. » Dans le psaume 105, on trouve « Car il se souvint de sa parole et d'Abraham, son serviteur. » Même Dieu se souvient de lui. Pourtant, quand on regarde sa vie, la vie qui nous est rapportée dans le texte de la Genèse, franchement, je ne suis pas impressionné. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quitté ses parents. J'ai fait pareil. Il s'est marié. Moi aussi. Il a eu des enfants. Il a travaillé. Il a acheté un bout de terre. Et il a voyagé. Voilà la vie d'Abraham. C'est juste une personne normale. C'est vous, c'est moi. D'accord, je ne suis pas en train de rabaisser Abraham, mais c'est juste pour dire que c'était une personne tout à fait de ce qu'il y avait de plus normal. Moïse, on a peut-être un peu plus de mal à s'identifier, mais Abraham, si on regarde ce qu'il a fait, ça va. Je pense que je peux faire pareil. Et puis il y a ce texte qui nous parle de ce sacrifice. Du sacrifice d'un fils. Et là, je pense qu'on a deux émotions. Enfin, moi, j'ai deux émotions. Je suis épaté. Je me dis, quand même. Il a du cran, ce gars-là. Et en même temps, je suis épouvanté par la soumission de cet homme. Mais laissez-moi vous dire ce matin que l'obéissance d'Abraham ne serait en rien partagée avec le monde entier depuis plus de 4000 ans, si Jésus-Christ n'est pas au centre de cet acte de foi. À l'époque antique, donc à l'époque d'Abraham, en fait, ce n'était pas quelque chose de très exceptionnel, ce qui se passe là. La pratique du sacrifice humain, et spécialement des enfants, malheureusement, était un rite en vigueur et qui permettait d'attirer la bénédiction ou les bons présages, la bonne augure. On le trouve dans Lévitique 18, Dieu a dû même intervenir à cette époque-là pour interdire cette pratique-là. On le trouve dans Lévitique. « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. » Donc c'était un dieu. Et auxquels on sacrifiait surtout les enfants. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Donc Dieu va carrément dire que ça profane son nom à lui de faire ce genre d'atrocité. C'est curieux, non ? C'est curieux. Alors je me pose la question, et je nous pose la question. Suis-je ébloui par l'acte d'un tel homme ou effrayé ? Par l'acte d'un tel homme. C'est la fête des mamans, mais les papas, vous êtes éblouis ou effrayés ? J'avoue que je suis entre les deux, mais plus effrayé. Pourquoi ? Parce que ce texte n'a de sens et il n'est acceptable moralement, et même selon la loi de Dieu, que parce qu'il présente l'agneau de Dieu, parce qu'il est parlé du Fils de Dieu dans ce texte. Le Fils de Dieu donné pour le salut de beaucoup. Il est parlé de Jésus-Christ, notre justice. Le Nouveau Testament, le premier verset du Nouveau Testament commence, donc Matthieu 1, 1, par nous présenter de qui Jésus-Christ est le Fils. Il est le Fils d'Abraham. D'accord ? Cette histoire-là, elle était en lien pour nous présenter 2000 ans avant la venue de Jésus que le Fils d'Abraham allait venir. Abraham est quelqu'un d'important car il a annoncé le sacrifice de Jésus. Point. Sans le Messie, Abraham n'est rien et sa vie est sans intérêt. Dans Matthieu 3, verset 8, il est dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Il va fort, non, Jean-Baptiste ? Il parle aux Juifs, il parle à ceux qui pratiquent la religion de Dieu, et il leur dit que la religion, ça vous sert à rien. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. On a beau se dire juif ou parfois chrétien dans notre monde occidental, sans le Fils de Dieu, on est comparable à de vulgaires cailloux. Celui qui est important, c'est Jésus-Christ. Au verset 11, il est dit « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Lui, il est digne. Alors, une autre question. Qu'en est-il de ma vie ? Annonce-t-elle Jésus-Christ ? Est-ce que, si je résume le récit de ma vie, de mes actes, parle-t-il ce récit-là de mon Sauveur ? Quelqu'un qui téléphone ? Est-ce que ma vie parle de Jésus-Christ ? Parce que c'est ça qui est important. Alors, centrons-nous sur le Fils. Qu'est-ce qu'on sait sur ce Fils ? Isaac est de conception miraculeuse. Ça, on le trouve, je ne l'ai pas marqué, mais on le trouve dans le passage juste avant, dans les passages avant Genèse 22. Et on sait que Sarah, la mère d'Isaac, était stérile, qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et non seulement elle ne pouvait pas enfanter, mais en plus elle a enfanté dans sa vieillesse. Son système biologique était certainement éteint, c'était fini. Elle n'était plus apte à le faire. Et Dieu préparait déjà, avec cette histoire, à recevoir son Messie, 1800 ans avant. Dieu préparait déjà au fait que Jésus naîtrait miraculeusement, d'une vierge, sans géniteur terrestre, suite à une parole divine. En quoi ça nous parle à nous, directement aujourd'hui ? Eh bien, j'ai envie de dire, ne te décourage jamais d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu prépare les cœurs sans relâche. Il a préparé 2000 ans avant le cœur du peuple d'Israël à recevoir son Messie. La patience de Dieu et sa détermination n'ont pas de limite. Est-ce qu'on réalise ça ? La patience et la détermination de Dieu à annoncer Jésus-Christ n'a pas de limite, ni de temps, ni d'espace. De même, comme la naissance de Jésus est miraculeuse, la nouvelle naissance de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui devient chrétien, l'est tout autant. C'est un miracle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il n'y a personne, pensez aux membres de votre famille, pensez peut-être à ceux que vous aimez le moins. Personne n'est trop dur ou trop éloigné ou trop malade ou trop intellectuel ou trop pauvre ou trop riche ou trop ce que vous voulez. Personne n'est trop pour venir à Christ. Dans Matthieu 10, dans Marc 10, au verset 26, il est dit « Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car à Dieu, tout est possible. » À Dieu, tout est possible. Isaac est né miraculeusement, Jésus est né miraculeusement, et chacun de vous, si vous êtes à Christ, nous sommes nés miraculeusement. Waouh ! Nous sommes un miracle vivant. C'est extraordinaire. Parfois, on a l'impression que Dieu ne peut pas atteindre certaines populations, certaines personnes. Et on serait surpris en regardant dans le monde. La dernière fois, je vous ai parlé de la Chine. On va parler du Pakistan ce matin. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des chrétiens au Pakistan, honnêtement, aujourd'hui ? Tu peux lancer les vidéos ? Je vous propose de regarder deux vidéos. Amen. Pakistan, 1 million. C'est quand en France la dernière fois ? Pardon. Deuxième vidéo, c'est pareil, c'est sur le Pakistan, c'est court. Ah, la vidéo qui était juste en dessous. C'est un grand festival qui a lieu. Merci. Dieu est celui qui déclare possible ce qui ne l'est pas. Amen. Dieu est celui qui déclare possible ce qui ne l'est pas. Est-ce que les pays musulmans peuvent être touchés par l'évangile? Humainement, non. Divinement, oui. La preuve. Continuons, revenons à notre texte. Verset 2, au verset 2, on a lu « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Costaud, hein ?« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Forcément, il n'en a qu'un, c'est celui qu'il aime, mais ça souligne énormément de choses. Abraham n'avait d'autre choix que celui de son cœur. Il n'avait d'autre choix que de donner tout ce qu'il avait et aimait. Pour Abraham, Isaac était sa chair, issue de la femme qu'il aimait. Mais aussi, il était l'enfant de la promesse, le but de sa vie et l'héritage qu'il laisserait après sa mort. C'était pas rien. Mais rappelons-nous, Dieu ne voulait pas qu'Abraham sacrifie son enfant. On a de la chance, on connaît la fin. Dieu voulait annoncer ce que lui allait faire. Il révélait déjà que la solution au péché, elle est unique. Cette solution serait issue, non pas de la guerre, mais de son amour, celui qu'il aime. Dieu enverrait Jésus, le Fils unique de Dieu, le seul capable d'ôter le péché du monde. Il enverrait celui qu'il aime. Dans Matthieu 3, 17, on trouve ça. Qu'est-ce que j'en retire ? Ben Dieu m'aime. Dieu m'aime tellement qu'il a tout donné pour me sauver. Est-ce que je le réalise, ça ? Dieu m'aime tellement qu'il a tout donné pour me sauver. Son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, a tant, tellement, qu'il a donné son Fils unique. Romains 8, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout, toute chose avec lui ?» Quand on lit ces textes et quand on lit cette histoire, chacun de nous peut réaliser toujours plus combien Dieu l'aime. Même si ça fait 40 ans qu'on est chrétien, on peut toujours réaliser encore plus que Dieu nous aime. Même si on a fait 2000 sozos comme Marie, je crois qu'à chaque fois, on peut encore réaliser plus que Dieu nous aime. Toute l'affection de Dieu, le Père, envers le Fils, nous est offerte en Jésus-Christ. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Paul dira que c'est difficile à comprendre un tel amour. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est difficile à comprendre combien Dieu m'aime. Mais que si nous le recherchons toujours plus, cet amour, nos vies seront bénéfice de la présence extraordinaire de Dieu. On trouve ça dans Éphésiens 3. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints, que vous puissiez comprendre. Ça veut dire que c'est compliqué. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et aussi que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Pourquoi ? En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comprendre combien Dieu m'aime m'amène dans sa présence. C'est simple. Comprendre combien Dieu m'aime, qu'il a tout donné. Il n'a rien retenu. Il a même donné le Fils. ça m'amène dans sa présence. Merci Jésus, merci Jésus. Merci parce que t'es venu Seigneur. Merci Père parce que tu as donné Jésus. Seigneur, tu n'as pas retenu ta main. Mais tu as tout donné par amour pour moi. Combien ça me fait du bien et combien j'en ai besoin. Saint-Esprit, fais grandir ça dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Isaac est amené en sacrifice par le Père. Il est volontaire. Est-ce que vous avez déjà réalisé, en lisant ce texte, que Isaac, il est volontaire? Abraham est un papy. Il a plus de 100 ans quand cet épisode arrive. Isaac est dans la fleur de l'âge. Si Isaac n'avait pas envie, il n'y serait jamais allé. On voit que Isaac est bien plus fort physiquement qu'Abraham. Pourquoi ? Parce que Abraham coupe le bois, mais qui le porte ? C'est pas Abraham, c'est Isaac, parce qu'Abraham, il était trop vieux. C'est le fils qui a porté. Et il se soumet pleinement et volontairement à la décision du père. Il porte le bois. Ça vous rappelle quelque chose ? Il porte le bois. De même, Dieu le Père a envoyé le Fils. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Et le Fils se soumet pleinement à la décision du Père. Dans Jean 10, Jésus dit « Je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, car je la donne de moi-même. » Et le Fils de Dieu porte le bois pour son sacrifice. Jean 19, Jésus, portant sa croix, arriva au mont Golgotha. Alors, les historiens vont pousser la coïncidence, ont fait des recherches, et apparemment Golgotha, et on a lu dans le texte du sacrifice, le mont Moria, ce seraient les mêmes montagnes où ont eu lieu les deux mêmes sacrifices. Enfin, un n'est pas allé jusqu'au bout, et celui de Jésus est allé jusqu'au bout. Alors, en quoi ça nous parle, ça ? Dieu décide. Dieu décide de ce qui doit être sacrifié, et ses fils et ses filles se soumettent volontairement. Suivre Jésus, suivre l'appel de Dieu, ne se fait pas sans renoncement, sans laisser quelque chose en arrière, en sacrifice. Parfois, on voit Jésus qui l'explicite assez clairement. Au jeune homme riche, il va lui dire « Facile, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » À Pierre, Jacques et Jean, il va leur dire « Laisse ton boulot, arrêtez de pécher, laisse ton bateau et tes filets et suis-moi. » À Marthe et Marie, il va leur dire « Ne rends pas ta vie trop occupée, mais passe du temps avec moi, etc. etc. » Parfois, c'est assez clair. Parfois, le renoncement s'impose de lui-même, alors que je vis ma vie nouvelle en tant que chrétien. Je sacrifie une partie de mon salaire dans les offrandes. Je donne de mon temps, je donne de mon énergie pour annoncer l'Évangile, pour servir la communauté dans laquelle Dieu m'a placé. Jésus nous a donné son amour et sa vie avec joie et avec zèle. Avec joie et avec zèle. Cette année, ce verset m'a sauté aux yeux quand Jésus dit « J'ai vivement désiré manger la Pâque. » Waouh, Seigneur, quel zèle! Ça voulait dire sa mort. Ça voulait dire sa mort. Il est important de comprendre que Jésus s'est donné volontairement en sacrifice pour nous, afin que nous aussi, nous soyons volontaires dans les sacrifices que nous offrons à Dieu. En tant que disciples de Jésus, le chemin de la victoire, la voie du salut, est aussi une route, parfois, où je dois porter le bois. C'est un sentier où la chair est affaiblie afin que ses désirs, la Bible nous dit, meurent. Et surtout, afin que la puissance du Saint-Esprit me vivifie et me conduise. Quand je sais faire, ou quand je peux faire, je n'ai pas besoin de Dieu. Alors je dirige mes voies selon ce que je pense, selon ce que j'ai envie. Mais quand c'est dur pour moi, quand je n'y arrive pas, c'est alors que ma fierté et mon orgueil sont terrassés. Et on devrait dire amen à cela. À ce moment précis, je crois que je deviens un instrument très utile pour Dieu, quand mon orgueil et ma fierté sont terrassés. Il va enfin pouvoir manifester sa gloire au travers de moi. Paul l'exprimera en disant « C'est quand je suis faible que je suis fort. » Et Dieu ajoutera « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Même si notre espérance est grandiose, et ça c'est vrai, Dieu nous appelle à vivre des choses extraordinaires après, mais aussi maintenant, notre marche n'est pas exempte de douleur, de peine, de tristesse, d'opposition ou d'affliction. Bien sûr, ce n'est pas à vous que je vais faire la leçon. Ensemble, notre communauté est passée par bien des épreuves. Et je voulais en profiter encore ce matin pour remercier chacun de vous pour votre cœur, votre soutien, pour votre solidarité, comme il a été témoigné encore ce matin, pour votre compassion, pour tout l'amour qui est exprimé pendant ces moments douloureux que certains peuvent traverser dans des périodes de la vie. Et je terminerai par ce que dit la Bible. Mais dans toutes ces choses, hein Bernadette, dans toutes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, Seigneur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature, en gros ta vie, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Rien ne peut me séparer de toi. Dernier point, Dieu se pourvoira lui-même. On a lu ça. Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice, au verset 8. Isaac n'a pas été sacrifié car il n'était qu'un homme. Il ne pouvait pas porter le péché et rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Il n'était pas le sacrifice que Dieu agrée et qui devient la justice de tout homme qui croit. La main d'Abraham fut arrêtée par l'ange, car Isaac n'était qu'une image de Christ. Il n'était pas l'agneau qui allait éradiquer le péché du monde. Personne n'a pu, personne, et ne pourra jamais remplacer Jésus-Christ. C'est important. On a parlé qu'il y avait des sacrifices à faire, mais je veux le dire aussi haut et fort, personne ne pourra remplacer ce que Jésus a fait. Jean le Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est lui. C'est lui. En Jésus, Dieu s'est pourvu lui-même du sacrifice nécessaire pour le salut de l'humanité. Et quand Dieu pourvoit, cela est suffisant. C'est complet. Rien n'est à ajouter. C'est pourquoi, en tant que disciple de Jésus, je ne vis pas ma vie en accumulant les sacrifices qui me conduiraient au salut. Dieu n'agrée pas ce genre de sacrifice. Et toute la Bible est là pour le témoigner. Si tu fais quelque chose pour Dieu, afin d'être sauvé, sache que ça ne sert à rien. Si j'accomplis quelque chose pour gagner ma place au ciel, alors je n'ai rien compris à l'Évangile. Je suis en train même de renier le Christ. Si j'accomplis quelque chose pour gagner ma place au ciel, bon nombre de religions font cela, je suis même en train de renier le Christ. Le seul qui a les clés du royaume de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Jésus dira, « Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu fais les choses dans ta vie pour être sauvé, laisse résonner ça dans ton cœur. Ce n'est pas ce sacrifice-là que Dieu te demande. Ce n'est pas celui-là. Si nous essayons d'accéder au ciel ou à la bénédiction même de Dieu par une autre voie, un autre accès que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors vous savez ce qui va se passer? Tu es prête, Elsa? Il va se passer ça si on essaye d'accéder par un autre chemin. Alors on va faire face à Gandalf. Et il va nous dire, vous ne passerez pas. Parce que ce n'est pas possible. Qui peut être sauvé? La Bible dit, il est impossible aux hommes d'être sauvés. Accédons à Dieu et à sa bénédiction par Jésus-Christ. Amen. Je reformule juste les questions. Est-ce que le résumé de ma vie passée, si je fais un bilan là, en 3 secondes, est-ce que le titre c'est Jésus-Christ? Est-ce que j'ai envie que le résumé de ma vie future, ah ben oui, je les ai affichés, c'est aussi en titre Jésus-Christ? Je suis un chrétien par le miracle de la foi. Est-ce que aujourd'hui je continue à vivre dans la foi et les miracles? Dieu m'aime, c'est un fait. Comment est-ce que je l'aime en retour? Qu'est-ce que je lui donne, moi? Suivre Jésus inclut mon obéissance à sa parole. Est-ce que je le fais à contre-cœur ou de tout mon cœur? Jésus, lui, n'a rien retenu. Il a tout donné. Et enfin, ma vie quotidienne est-elle nourrie continuellement de la bonne nouvelle de l'Évangile? Est-ce que je vis l'Évangile tous les jours? Est-ce que la paix du ciel et le bonheur d'être aimé règnent en moi? J'aimerais vous inviter à vous lever. Et on va finir par la prière. Seigneur Jésus, tu es tout. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Et tu es le sens de ma vie. Tu es celui qui mérite tout mon amour. Toute ma force. Tu es celui que Dieu aime. Tu es mon sauveur. Tu es mon roi. Tu es mon guide. Tu es ma raison de vivre, d'être, ma raison d'espérer. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, que le résumé de ma vie, ce soit toi. Seigneur, que quand tu me récupères auprès de toi, sur ma tombe, il soit écrit « A aimé et servi son Seigneur ». C'est toi qui es important. C'est ce que tu fais, toi, Seigneur, de ma vie. Saint-Esprit, merci parce que tu es le Dieu des miracles. Merci parce que on peut repartir ce matin encouragé, Seigneur, parce que tu es le Dieu extraordinaire. Tu es celui qui sauve aujourd'hui, Seigneur. Tu es celui qui a permis le rassemblement d'un million de personnes au Pakistan, Seigneur. Tu es celui qui m'aime. Je prie que tu conduises chacun de nous. Amen.